Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce 9 octobre. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. L'image du jour, c'est cette femme vêtue d'une tenue traditionnelle immaculée qui descend lentement d'un avion à l'aéroport de Bamako. Sophie Pétronin, 75 ans, la dernière otage française au monde, est libre après 1384 jours aux mains des djihadistes maliens. Elle affirme avoir été bien traitée et de fait, sur le tarmac, elle est apparue en bonne forme.
Je vais très bien. Je n'ai pas de problème, aucun problème. J'ai perdu un peu de poids. Mes projets, c'est prendre du magnésium, du calcium, du phosphore pour renforcer un peu la matière grise.
Quel beau projet!
Attends, ça c'est la première étape. Arranger un peu la carrosserie, qui est quand même un peu défectueuse. Je fais ça et rapidement, je relève les manches et je me remets au boulot. Et tout ira bien.
Sophie Pétronin au micro de Mohamed Agamedou à Bamako pour RTL. À sa descente d'avion, l'ex-otage a eu droit à des retrouvailles émouvantes avec son fils Sébastien qui s'est battu pendant ces 4 années pour sa libération. Et en France, elle est attendue par son mari Jean-Pierre qui est en route pour Paris, soulagé forcément.
Très heureux pour elle et qu'elle retrouve la liberté. Ça, c'est très magnifique. Je la trouve quand même pas mal. Moi, je pensais qu'elle allait arriver alitée, quoi, allongée, mais non, pas du tout. J'en saurais plus quand je la verrai, quoi. Je suis déjà dans le train, là, pour pouvoir être à l'arrivée de l'avion sanitaire à Villacoublay.
Vous avez hâte de la serrer dans vos bras?
Ah, ben ça, c'est sûr. Puis surtout lui souhaiter que maintenant, qu'elle se repose et qu'elle ait le reste de vie heureuse, quoi. Elle a toujours fait le bien pour tout le monde. Elle a toujours été quelqu'un de très fort, fort de caractère. Une foi terrible et puis toujours à aider les autres, quoi.
Jean-Pierre Pétronin, joint pour RTL par Serge Pueyot. Sophie Pétronin doit arriver à Paris dans la journée. Emmanuel Macron ira l'accueillir à l'aéroport de Villacoublay. Dans un communiqué, le chef de l'État exprime son immense soulagement et sa gratitude envers les autorités maliennes. 3 autres otages ont été libérés en même temps que Sophie Pétronin, l'opposant malien Soumaïla Cissé et 2 Italiens.
L'actualité, c'est aussi ce nouveau tour de vis face à l'épidémie de Covid-19.
4 métropoles basculent à leur tour en zone écarlate. Lille, Lyon, Saint-Etienne et Grenoble. Les villes de Toulouse et Montpellier sont en sursis. Elles risquent de passer en alerte maximale dès lundi. Seule bonne nouvelle dans tout cela, la situation s'améliore à Nice et à Bordeaux et on constate aussi des signes encourageants à Rennes et Aix-Marseille. La crise sanitaire se double d'une crise économique profonde et durable. Alors le gouvernement élargit le dispositif de prise en charge. Une 30aine de professions qui ne bénéficiaient pas du fonds de solidarité vont y avoir accès, notamment les fleuristes, les blanchisseries et les arts de la table. Un soulagement pour Mathilde qui est fleuriste à Nice.
Ça sera extrêmement bienvenu parce qu'il y a beaucoup de monde dans la difficulté dans la profession en ce moment. La dernière commande est pour après-demain et la prochaine commande officielle clairement annoncée est pour 2021. Pour ma part, plus de travail à partir du week-end prochain. Un gros ralentissement de plus de 80% d'activité. Clairement, sans l'aide supplémentaire, en tout cas, ça rendrait la situation encore plus fragile pour beaucoup de monde.
Cette fleuriste de Nice jointe par Anaïs Bouissou pour RTL.
7h34, l'émotion ne retombe pas après l'attaque de 2 policiers mercredi soir à Herblay dans le Val-d'Oise.
L'un d'eux est toujours entre la vie et la mort. Plus de 300 policiers sont mobilisés pour retrouver les 3 individus qui ont tiré à 7 reprises sur les agents désarmés. Invité d'RTL Soir, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin parle d'un acte de sauvagerie.
Ils ne pouvaient pas ignorer manifestement qu'ils étaient policiers. Ces policiers étaient certains civils, comme beaucoup le sont les effectifs de la police judiciaire, mais ils avaient une voiture avec un pare-chocs police, ils avaient une radio de la police, ils avaient des armes qu'ils ont montrées manifestement aux agresseurs, ils avaient des cartes de police. Et quand bien même la violence inouïe, l'acte de sauvagerie, de frapper pendant un long moment des hommes qui, à terre, pissent le sang, pardon de le dire comme ça, ne peuvent plus se défendre. Tirer 7 fois sur eux à terre et les laisser ainsi est tout à fait bien évidemment inexcusable et démontre effectivement un massacre.
Gérald Darmanin dans RTL Soir avec Thomas Soto. Une scène ahurissante hier soir à Saint-Denis. Le conseil municipal a été envahi par des dizaines de manifestants, des agents municipaux, mais pas seulement. Ils s'en sont pris verbalement, mais aussi physiquement aux élus. En cause, la réforme du temps de travail des agents municipaux. La ville va porter plainte. Et puis, c'est le résultat de plus d'un an d'enquête. Une 60aine de personnes soupçonnées de consulter des contenus pédopornographiques ont été arrêtées ces derniers jours dans toute la France. Parmi elles, 4 hommes soupçonnés de viol.
Mediapro doit respecter respecter ses engagements. Parole de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu.
Le groupe espagnol cherche à renégocier les droits télé de la Ligue 1 bouleversée par l'épidémie de Covid. La Ligue a d'ores et déjà fait savoir qu'elle refusait d'accorder un délai de paiement à Mediapro pour le versement d'octobre. Elle risque la banqueroute, selon Vincent Chaudel, économiste du sport.
On est dans un effet domino où on a commencé au printemps par l'arrêt de la compétition qui a acté la perte de un quart des revenus du football français. Derrière, on pensait reprendre avec du public et on a le problème des jauges avec le Covid. Et tel un coup de grâce, arrive le problème avec le diffuseur. Jusqu'ici, le football français était préservé parce que plus de 50% de ses revenus étaient liés aux droits télé et c'était quelque part comme un airbag pour le protéger de l'accident. Donc oui, il y a des clubs qui vont avoir de vrais problèmes de trésorerie immédiats et peut-être de solvabilité dans les mois à venir.
Propos recueillis par Philippe Sansfourche. À Roland-Garros, on suivra aujourd'hui les demi-finales, messieurs. D'abord Nadal contre l'Argentin Schwartzmann, puis Djokovic face au Grec Tsitsipas. Demain, finale dame inédite entre l'Américaine Sofia Kenin et la jeune Polonaise Iga Swiatek, 19 ans seulement.
C'était le tout info avec Isabelle Choquet. On se retrouve pour la face cachée de la Une à 8h40.
Et en l'occurrence, la face cachée de la Une de Closer, le magazine People qui a sorti les politiques du placard.
Notre météo avec Louis Baudin. Louis.
Oui, la pluie qui est revenue dans la moitié nord ce matin. Il pleut en ce moment du Val-de-Loire à l'Île-de-France, à la Champagne. C'est une toute petite perturbation. Là, elle fait en gros une centaine de kilomètres d'épaisseur qui traverse la moitié nord. Cet après-midi, on la retrouvera entre la région Poitou-Charentes, le centre, le sud de l'Île-de-France, la Lorraine, l'Alsace, avec encore des nuages et de la pluie. Après son passage dans le nord-ouest de la Bretagne, à l'Île-de-France, au Nord-Pas-de-Calais, retrouvera quelques éclaircies, mais avec encore des averses. Et puis plus au sud, de l'Aquitaine à la région Rhône-Alpes, des Pyrénées à la Méditerranée. Là, ça sera encore sec et plutôt ensoleillé. Les températures, ben, elles repartent à la baisse. On sera entre 14 et 18 degrés dans la moitié nord cet après-midi, 19 à 23 dans la moitié sud.
Merci beaucoup Louis Baudin. Il est 7h37, bonjour.